ce putsch, en fait, était un petit peu attendu, puisqu'on n'avait pas d'autre moyen de débloquer la situation. Et puis surtout, bon, il fallait absolument éviter les prochaines élections législatives. Comme l'opposition était à peu près persuadée qu'elle allait perdre ses élections, bon, il était évident qu'elles n'auraient pas lieu.
On sait que le Premier ministre et le roi sont loin d'afficher de bonnes relations. Il y a un certain antagonisme. Est-ce qu'on peut imaginer de la part du roi, si ce n'est un accord, mais en tout cas, une autorisation tacite?
En fait, depuis quelque temps, la plupart des coups d'État qui réussissent, en tout cas, ont reçu presque une autorisation, ou en tout cas l'aval du roi. Il faut que le palais accepte le résultat du coup d'État, donc il vaut mieux s'assurer avant qu'il est plutôt favorable.
La monarchie absolue a été abolie il y a plus de 70 ans, mais le roi a toujours énormément de pouvoir.
C'est vrai que c'est un petit peu le contre-pouvoir naturel, et ce roi en particulier a une grande autorité. Il a presque un gouvernement personnel avec son conseil royal, qui est un président et auquel il nomme en général des anciens hommes d'État ou des anciens premiers ministres. Donc en fait, il est effectivement très écouté.
Le Premier ministre était de plus en plus contesté, en particulier à Bangkok et dans le sud. En revanche, dans le nord-est, la population semblait lui rester fidèle. Est-ce que ce putsch va diviser la population?
La population était déjà divisée avant le putsch, donc bon, ça va évidemment l'accentuer un petit peu. C'était en fait surtout l'élite et ce qu'on appelle les classes moyennes qui étaient opposées à Tharsin, et les pauvres de toutes les régions y étaient plutôt favorables. Alors c'est vrai que le sud traditionnellement est fidèle au parti Pachatipat, au parti démocrate, mais les pauvres de Bangkok étaient très favorables à Tharsin.
Les classes populaires les plus défavorisées étaient en quelque sorte satisfaites, plus ou moins, de la politique menée par le Premier ministre.
Absolument, oui. La grande mesure dont on parle toujours, c'était de pouvoir se faire soigner pour pratiquement toutes les maladies pour simplement 30 bahts, alors qu'auparavant c'était extrêmement difficile de se faire soigner et il n'y avait que ceux qui avaient les moyens qui pouvaient se faire soigner. C'était une mesure révolutionnaire en Thaïlande. Mais il y en avait d'autres. Par exemple, ce qui avait beaucoup plu au Thaï aussi, c'était ce système de bourse qui était accordé par le gouvernement aux familles défavorisées et des bourses pour étudier à l'étranger. C'était extrêmement populaire aussi. Bon, on pourrait multiplier les mesures.
Et en revanche, les couches sociales les plus favorisées, que lui reprochait-elle?
C'est pas vraiment aussi clair que ça, parce que, bon, la corruption, bien sûr, mais les gouvernements corrompus, c'est presque la règle, en fait, en Thaïlande. Donc, c'était un petit peu son style personnel. Il était un peu prétentieux, finalement, ou peu respectueux, peut-être, des intellectuels. On lui a beaucoup reproché la censure de la presse, de la radio, en particulier de la télévision. Ça passe très mal à Bangkok.
Ce putsch vient s'ajouter à une longue série. C'est un coup, un nouveau coup dur porté à une démocratie déjà extrêmement fragile.
Ce putsch, même si c'est totalement anticonstitutionnel, évidemment, ça remet un petit peu les compteurs à zéro. Moi, j'ai quand même relativement confiance à l'avenir de la démocratie en Thaïlande. Alors, c'est vrai que, vu de l'étranger, un coup d'État militaire, ça paraît catastrophique. Localement, on n'est plus philosophe là-dessus, on connaît bien. Moi, je sais que depuis 1978, où je me suis installé en Thaïlande, j'ai connu un certain nombre de coups d'État. Finalement, la démocratie l'a toujours emporté.